pour parler de la prédication, on dit couramment apporter la parole, ça veut dire la parole de Dieu, ce qui est, sais pas comment dire, c'est vraiment une responsabilité, il faut que ce soit celle de Dieu, pas mes préférences à moi. Et ce matin, donc, je propose de lire dans le chapitre 6 de l'évangile de Matthieu. Et des textes d'où viennent les choses magnifiques, importantes, vitales que nous avons chantées, que nous avons dites en prière et dont nos cœurs se sont réjouis, émus. Et se sont encore ouverts devant Dieu. Donc, le centre de la partie qu'on va lire, c'est ce qu'on appelle la prière Notre Père. Il sera bénéfique de lire ce qui précède et ce qui suit. Et alors ça, c'est très souvent utile, mais encore plus avec les paroles de cette prière, parce qu'on les sait par cœur, on les sait trop par cœur, et trop vite, à toute vitesse. Notre Père qui est et c'est l'exemple type de partie de la Bible où on regarde pas le contexte. Alors, évidemment, le contexte premier, c'est que c'est Jésus qui le dit et qui le dit à ses disciples. Alors, évidemment, ce qui est écrit avant et ce qui est écrit après, ce matin, je vais passer vite. Et pourtant, il faut le lire et relever ce qui... Bon, on va voir. Gardez-vous de pratiquer votre justice devant les hommes. Alors ici, le mot justice désigne les actes de piété. Donc ici, dans le texte, ça sera l'aumône. Donc l'aide matérielle aux gens du peuple d'Israël, là dans le contexte, donc à ceux qui sont dans l'Alliance. Ça n'empêche pas de le faire à d'autres. Et c'est même bien, mais voilà, l'aumône, la prière et le jeûne. Donc s'abstenir de manger pour se placer davantage devant Dieu, plus de temps, plus de... Voilà. Donc, et ça, le mot justice recouvre un peu tout ça et on peut élargir, bien sûr. Gardez-vous de pratiquer votre justice devant les hommes pour en être vu. Autrement, vous n'aurez pas de récompense auprès de votre Père qui est dans les cieux. Et ça donne le ton. Le ton est donné ici, parce que normalement, ces justices-là, aumône, prière, jeûne, sont faites pour Dieu. Alors, c'est au bénéfice des personnes, au moins pour l'aumône, souvent les prières aussi, et les jeûnes, sont faits pour Dieu. Et Jésus dit, gardez-vous de les faire pour être vus des hommes. Et puis il dit même que c'est pas la récompense des hommes qu'il faut chercher. Et donc tout de suite le ton est donné là de dire est-ce que ce sont les retours et les félicitations et les réussites et les succès et les honneurs et la gloire du monde présent qui m'intéresse, ou est-ce que c'est le regard de Dieu? Et c'est lui qui récompense. Quand donc tu fais l'aumône, ne sonne pas de la trompette devant toi comme font les hypocrites dans les synagogues et dans les rues, afin d'être glorifié par les hommes. Donc Jésus montre bien la différence entre ce qu'on fait et ce qu'on dit, et qu'est-ce qu'il y a dans le cœur. Et là, quelqu'un fait l'aumône, mais son but profond n'est même pas que celui qui reçoit soit aidé, mais c'est que lui soit glorifié. Voilà. En vérité, je vous le dis, ils ont reçu leur récompense. Et leur récompense ne vient pas de Dieu, elle vient de ce que tout le monde autour a dit. Wow, il est super celui-là. Il donne beaucoup de... voilà. Mais quand tu fais l'aumône, que ta main gauche ne sache pas ce que fait ta main droite, afin que ton aumône se fasse en secret. Et ton Père, qui voit dans le secret, te le rendra. Et donc c'est le même ton qui continue. Est-ce que c'est le regard de Dieu qui m'intéresse? Et le mot secret qui va revenir 5 ou 6 fois là dans la partie qu'on va lire, c'est pas le secret au sens de cachotterie, hein, mais c'est simplement là, ça appuie très fort sur la différence entre ce que l'homme voit et ce que Dieu voit. Et ça appuie sur le fait que ce que Dieu voit, ce qui est fait pour Dieu, souvent l'humain ne le voit pas. Donc c'est secret au regard humain, à l'appréciation humaine, mais c'est précieux à Dieu. Et c'est pour ça que le mot secret est répété. Et ton Père, alors tu fais en secret, bon ça on comprend, une discrétion, voilà, du moins pour l'aumône. Mais ton Père voit dans le secret. Et je voudrais reposer la même question que j'ai posée, je ne sais plus quand, en disant, Éternel, au sujet du texte, Éternel, tu me sondes et tu me connais, est-ce que ça m'inquiète ou est-ce que ça me rassure? Et quelqu'un m'a dit, c'est ton épouse, tout de suite, après la réunion, elle m'a dit, moi ça me rassure que Dieu voit tout. Et ben, que Dieu voit dans le secret, est-ce que ça t'inquiète ou est-ce que ça te rassure? Si ça t'inquiète, demande-lui pourquoi. Pourquoi ça t'inquiète? Et si ça te rassure, ben tu peux te... réjouissons-nous. Lorsque vous priez, ne soyez pas comme les hypocrites qui aiment à prier dans les rues, debout dans les synagogues ou au coin des rues pour se montrer aux hommes. Et de nouveau, alors là, c'est, en vérité, c'est effrayant ce qu'on est en train de lire. Parce que quand on prie, normalement, c'est pour Dieu quand même. C'est à lui qu'on parle, c'est devant lui qu'on vient. Et Jésus dit, pour se montrer aux hommes. Alors là, on a le grand écart maximum. Je l'ai souvent dit, je le redis encore, on peut faire une magnifique prédication avec pour objectif ultime de briller devant les gens. Et moi, je l'ai fait, ça m'est arrivé. Mais t'es arrivé, et heureusement Dieu m'a amené à me repentir de ça. Alors je ne l'ai pas fait à 100% que pour ça. Pour se montrer aux hommes. En vérité, je vous le dis, ils ont reçu leur récompense. Donc c'est impressionnant, ils ont prié, et ils ne reçoivent rien de Dieu. Tout ce qu'ils reçoivent, c'est que les gens les trouvent super. Mais toi, quand tu pries, entre dans ta chambre, ferme ta porte et prie ton Père qui est dans le secret. C'est-à-dire dans la sphère, dans le lieu, dans la dimension qui échappe aux humains, mais qui est son lieu à lui, son règne permanent, éternel. Prie ton Père qui est dans le secret. Et ton Père qui voit dans le secret te le rendra. Donc ça. C'est d'autres mots pour te récompensera aussi. Hein. Les versets suivants, 7, 8, 9, je les lirai avec le texte de la prière du Notre Père. Et maintenant, verset 16, « Lorsque vous jeûnez, ne prenez pas un air triste comme les hypocrites. Ils se rendent le visage tout défait pour montrer aux hommes qu'ils jeûnent. » En vérité, je vous le dis, ils ont reçu leur récompense. Mais toi, quand tu jeûnes, parfume ta tête, lave ton visage, afin de ne pas montrer aux hommes que tu jeûnes, mais à ton Père.
Je me rappelle quand certains de nos petits-enfants étaient
vraiment petite, faisait des... Donc pour ceux qui ont connu, en l'occurrence les filles de Josué, elle nous faisait des dessins pour Anne-Marie et moi. Il y avait voilà, beaucoup de cœurs et beaucoup de couleurs et des fleurs. Et, voilà. Et puis elle arrivait et disait, « Mamie, c'est pour toi. C'est pour toi. C'est pour toi. » Encore aujourd'hui, quand je rien que de le redire. Voilà, et bien là Jésus nous dit, quand tu pries, que ce soit pour Dieu. Oui, mais t'es venu de la grand con pour nous dire que quand on prie, c'est pour Dieu. Mais c'est Jésus qui le dit. C'est pas moi qui le dis. C'est Jésus qui dit, quand tu pries, que ce soit pour Dieu. Quand tu jeûnes, que ce soit pour Dieu. Et même quand tu donnes une aide matérielle à quelqu'un, alors évidemment c'est pour elle, c'est pour lui, mais que ce soit pour Dieu. Donc ne pas montrer aux hommes, mais à ton Père qui est là dans le secret. Littéralement, il n'y a que le mot secret. Voilà. Et ton Père qui voit dans le secret te le rendra. Alors c'est ce qu'on vient de lire là, donc ce qu'il y a avant et après les paroles de la prière que Jésus enseigne aux disciples. On l'a tous lu X fois parce qu'on lit les évangiles. Et moi, le premier, j'ai souvent réduit le sens de ces paragraphes à « ne soyez pas hypocrites ». N'ayez pas pour objectif de paraître. Et effectivement, c'est le sens. Mais ce n'est pas le seul sens. Le sens profond, il est là dans le contraste entre aux hommes ou à Dieu, et ils ont reçu leur récompense au présent, c'est-à-dire un petit peu de gloriole, et puis ton Père te rendra la récompense de votre Père qui est dans les cieux. Et Jésus dit déjà les premières paroles de la prière, il est dit au premier verset du chapitre déjà, votre Père qui est dans les cieux. Et le gros message de ces paragraphes-là, c'est ne vous trompez pas de siècle. Il y a le siècle présent, le monde actuel, la vie sur terre, jusqu'au jour, avec J majuscule, le jour où Jésus revient, et jusqu'à ce qu'il revienne, nous sommes dans le siècle présent, dans le temps présent. Et avec toutes les choses visibles, et les choses visibles sont passagères. Et les choses invisibles sont éternelles. Donc ça, c'est un verset, hein, c'est écrit. Mais vivons, et Jésus dit, vivez pour le siècle à venir. Vivez pour le siècle à venir. Et voilà le contexte dans lequel Jésus dit à ses disciples comment prier. Verset 7, en priant, ne multipliez pas de vaines paroles comme les païens qui s'imaginent qu'à force de paroles, ils seront exaucés. Ça ne signifie pas qu'on ne peut pas reprier pour une chose sur laquelle on a déjà prié, mais ça signifie que votre foi ne soit pas placée dans la répétition en elle-même, si vous voulez, que votre prière ne devienne pas des mantras. Comme si répéter, répéter, répéter avait une vertu magique. Jésus dit bien, comme les païens, donc ils ne connaissent pas le Dieu créateur, mais qui ont plein de dieux, plein d'idoles, plein de démons en l'occurrence. Ne leur ressemblez pas. Alors pourquoi ne leur ressemblez pas? Parce que votre Père sait de quoi vous avez besoin. Avant que vous le lui demandiez. Donc ici, la question vient, depuis 2000 ans, elle vient. Et alors, pourquoi on prie? En vue du siècle à venir. Et le cœur du siècle à venir, c'est quoi? C'est que nous serons dans sa maison et que nous verrons sa face. Alors, pourquoi on prie? Pour être avec lui, déjà maintenant. Pendant que nous sommes dans le siècle présent et que nous manquons de pain, de travail, de santé, d'amis, voilà, eh bien, nous demandons à Dieu. Parce qu'il est notre Père. Et il sait. Votre Père sait. C'était le titre d'un livre quand on était jeune. Je pense que au moins Hervé et Joël se rappellent. Votre Père sait. Et Cathy. Votre Père sait de quoi vous avez besoin avant que vous le lui demandiez. Ça, il faut vraiment l'entendre. Et, il dit, et Jésus dit, venez et demandez-lui, on va voir, hein, donne-nous notre pain. Et il le sait déjà, avant qu'on le dise, et il sait qu'on va le dire, il sait même les mots qu'on va employer, tout. Mais on va le dire, parce que quand on le dit, on le fait pour être avec lui. Et donc, malheureusement, j'ai découvert... après des décennies de vie chrétienne, probablement 40 ans après que Dieu m'ait sauvé, hein, j'ai découvert un délice particulier à écouter les prières des gens. Avec simplement un angle, elle, il est en train de parler à Dieu. Juste ça. Et à ce moment-là, ça me fait tourner vers Dieu. Et j'écoute ce que la personne dit et en même temps, je l'écoute, mais pas avec mes oreilles d'humain, pas, par exemple, pas avec mes oreilles premièrement d'enseignant biblique, en disant est-ce que c'est correct ce, que, hein, ce qui est prononcé. Mais avec... Il parle à Dieu, elle parle à Dieu. Voici donc comment vous devez prier. C'est incroyable. Et vous pouvez faire des séminaires, des voyages à des milliers d'euros, de dollars, des séjours, des livres, des vidéos, tout ça pour savoir prier, le secret de la prière. Tout, enfin, vous voyez, alors, bon, des fois on apprend des bonnes choses, mais globalement, je crois que nous, évangéliques spécifiquement, on a complètement oublié que Jésus a dit, voici comment vous devez prier. C'est comme ça qu'il faut prier. Alors, pour aider tout de suite, je vais dire que les paroles du Notre Père sont à entendre, en plus des mots précis, comme une table des matières de toute ma vie de prière, de ma conversion jusqu'à ma mort. Voilà. Là, on a le contenu de toute prière. Notre Père, qui es aux cieux. Il est notre Père parce qu'il est premièrement le Dieu et Père de notre Seigneur Jésus-Christ. C'est-à-dire que c'est en venant à Jésus que nous découvrons la paternité de Dieu et que nous la goûtons. Et c'est par adoption en son Fils que nous sommes ses enfants. Donc il devient notre Père quand Jésus nous sauve. La Bible ne dit jamais que Dieu est le Père de tous les humains. Il est le Créateur de tous les humains. Il a prévu de devenir leur Père, s'ils veulent bien croire. Bon, là, je m'embarque pas dans la question de la prédestination, qui est hyper importante. Notre Père qui est aux cieux. Et c'est un collectif ici. C'est un collectif, notre. Alors ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas dire mon. Oui, mon père. Et même le Nouveau Testament nous enseigne à dire Abba, c'est-à-dire papa, papa. Donc très personnel. Mais il dit notre, qui est aux cieux. Qui est aux cieux, au-dessus, plus grand, premier, que ton nom soit sanctifié. On a chanté plusieurs fois le mot nom. D'ailleurs, j'aurais volontiers mis une majuscule sur le mur, là. Que ton nom soit sanctifié. Oui. Il y a une traduction plus récente, c'est le semeur, mais pas que. Il y a différentes traductions récentes qui mettent que tu sois reconnu. Parce qu'est-ce que ça veut dire que ton nom soit sanctifié? Que tu sois reconnu pour Dieu, comme Dieu. Alors, ça inclut ça. Au minimum, ça veut dire ça. Et ces traductions, ça a été fait pour que ceux qui ne sont pas habitués à la Bible, ben, ils voient au moins quelque chose du sens dès leur première lecture. Mais évidemment, que ton nom soit sanctifié, ça dit infiniment plus. Infiniment plus. Alors ici, une question peut être la bonne question. Sanctifié par qui ? Par Dieu, lui-même, par les siens, par tous les humains. Bon, sans le vouloir, j'ai mis dans le bon ordre. Enfin, si, ça aussi, quand même, je le voulais. Hein. Je pense à un texte dans Exode 34, quand l'Éternel, une des fois où l'Éternel se montre à Moïse, c'est le verset 5, où c'est marqué que l'Éternel vient et il se tient devant Moïse et il proclame le nom de l'Éternel. C'est la phrase dit, l'Éternel proclama le nom de l'Éternel. Deux points, l'Éternel, Dieu grand, miséricordieux, lent à la colère, riche en bonté. Le nom de l'Éternel proclamé par l'Éternel. Le nom de Dieu proclamé par Dieu. Là, on attrape le vertige, normalement. Déjà, quand quelqu'un qui connaît à peine Dieu proclame son nom, Dieu peut faire une œuvre extraordinaire avec ça. Il peut sauver quelqu'un parce que le nom de Jésus ou l'œuvre du salut a été proclamée par quelqu'un qui le croit qu'à moitié et qui lui-même n'est pas disciple de Jésus. Dieu, il peut faire incroyable ce qu'il peut faire avec ça. Quand son nom est proclamé par ceux qui sont à lui, qui le craignent, qui le suivent, qui l'aiment, alors là, des fois, les gens, ils pleurent. Ils sont transpercés au sens bénéfique. Hein. Mais quand le nom de l'Éternel est proclamé par l'Éternel, voilà. Et dans les évangiles, il est proclamé par Jésus, qui est Dieu dans le sein du Père. Donc le Père est plus grand que lui, Jésus le dit et c'est clairement et ça demeure éternellement. Mais Jésus est Dieu de même nature divine que son Père. Et Jésus proclame le nom de son Père. Vous savez que, pardon, il ne faut pas dire vous savez que parce que, voilà, enfin on peut dire mieux. Avant que Jésus ne vienne, donc Dieu n'envoie son Fils, dans une chair semblable à la nôtre, homme, Dieu est appelé Père dans les Écritures 14 fois, si je ne me trompe pas, 13 ou 14. Et 7 fois dans la bouche de Dieu lui-même, c'est lui-même qui se dit Père, si je suis Père, où est l'honneur qui m'est dû ? Et 6 ou 7 fois dans la bouche d'humain, en l'occurrence Moïse, Ésaïe, David. De nouveau, si je ne me trompe pas. Et l'Ancien Testament couvre, au niveau de ce qui est rapport, sa période d'écriture, c'est plus d'un millénaire. À peu près un millénaire, on va dire. Et il y a un volume énorme le texte. Dans le Nouveau, donc Dieu est appelé Père 13-14 fois. Dans le Nouveau Testament, il est qualifié de Père, dénommé Père, 250 fois, dont 200 fois dans la bouche de Jésus. Voilà. Voilà, quand on dit notre Père, voilà tout ce qu'il y a dedans, dessus, dedans, derrière, dessous, voilà tout ce qu'il y a, notre Père. Que ton nom soit sanctifié. Et donc sanctifié, c'est de la même, c'est, ça veut dire il est le Saint. Et donc qui, qu'il soit sanctifié par qui ? Ben, par toi-même d'abord, notre Père. Et Dieu le dit, je cite juste un texte, mais il le dit souvent par les prophètes en Israël, assez souvent il parle qu'il fait les choses pour son nom, pour sanctifier son nom, pour la gloire de son nom, sachant que c'est la gloire de son nom qui fait la vie de ses créatures et de ses... De ses élus. Et donc il dit par exemple dans Ézéchiel 36 à Israël, il dit mais je vais vous faire revenir, je vais vous racheter, je vais vous changer, je vais vous donner un cœur nouveau, je vais mettre mon esprit en vous, et tout ça, il dit tout ça je le ferai pas à cause de vous, je le ferai à cause de mon nom qui a été profané, et je sanctifierai mon nom. Alors, pour vous, et plus largement, pour quiconque. Donc, quand nous prions que ton nom soit sanctifié, quand Jésus nous dit de dire ça, voici comment vous devez prier, que ton nom soit sanctifié, eh bien, ça revient à demander à Dieu de se révéler comme celui qui est saint, avec S majuscule. D'accord ? Père, révèle-toi comme le Saint. Et s'il se révèle comme le Saint, ou plutôt quand, et encore, et encore, et encore, parce qu'on a à peine perçu ce qu'est sa sainteté, quand il se révèle comme Saint, toutes les demandes ultérieures, elles viennent mieux et ça marche. Par exemple, comme nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. C'est parce que j'ai insuffisamment vu qu'il est saint que je refuse de te pardonner, parfois. Ou que je diffère. Je diffère, puis des fois ça prend 10 ans. C'est vrai ou pas ? Même quand on est chrétien. J'ai bien dit des fois, hein, pas toujours. Que ton nom soit sanctifié. Que ton règne vienne. Alors oui, un dernier mot sur sanctifié. Évidemment que si Dieu se révèle comme le Saint, ben, ceux à qui il se révèle saint, eux, ils vont le sanctifier. Ils vont le manifester comme étant au-dessus, comme étant le saint, comme étant tout autre, comme étant bien sûr séparé du mal, mais comme étant lumineux, rayonnant, glorieux. C'est tout ça, saint. Saint, ce n'est pas uniquement qu'il n'y a pas en lui de ténèbres. Si vous voulez, que Dieu est saint, ça n'a pas seulement un sens moral. C'est un sens plein, complet, qui inclut le règne, et qui inclut la volonté. Si, quand Dieu se révèle comme saint, son règne se manifeste. Son règne vient. Alors avec le règne, de nouveau, que ton règne vienne. Par l'action de qui ? De l'Église, de moi, des ministères, ou de toi ? Premièrement de toi. Alors même s'il est courant d'employer l'expression établir le règne de Dieu, c'est une hérésie, la Bible n'emploie jamais cette expression pour nous, si elle l'emploie, mais pour lui. C'est lui qui a, il a établi son règne. Ensuite, le règne de Dieu dans la Bible n'est pas au futur. Ou, pardon, n'est pas que au futur. Il règne déjà. Et quand Jésus dit que, nous dit de dire que ton règne vienne, il sait très bien que dans les psaumes, nous avons lu et chanté « L'Éternel règne ». Il est majestueux. Voilà, donc que ton règne... Alors, en plus, la prière finit par « Car c'est à toi qu'est le règne ». Donc, d'accord ? Donc, que la prière « Que ton règne vienne » en aucun cas ne signifie « Notre Père, hélas, tu ne règnes pas encore, mais vite, 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 que règne, règne, vite, vite, mets-toi à régner, parce qu'il y en a grave besoin. » Alors, il y en a grave besoin, oui. Mais ce qui a besoin, c'est juste que le monde, l'Église aussi en partie, voit insuffisamment qu'il règne et se préoccupe insuffisamment de son règne et donc vit pour le siècle présent plus que pour le siècle à venir. Donc ce qui est à venir, c'est l'apparition de Jésus et après les temps éternels, mais il est déjà pleinement roi. Si vous voulez, l'idée d'un règne de Dieu qui viendrait progressivement à l'existence est une idée étrangère à la Bible. Alors le but c'est quoi? Non, dis-moi mieux, Anne-Marie. Ah oui. Le but c'est que révélé comme le Saint, il nous apparaisse aussi pratiquement comme celui qui règne, dans la pratique, comme celui qui règne, qui maîtrise tout, à qui rien n'échappe, avec qui on peut traverser des choses que d'aucuns qualifieraient d'insupportables, d'invivables, et avoir des victoires que d'aucuns penseraient impossibles. Il règne, il règne, il règne. Alors que ton règne vienne, eh bien, que vienne le jour, le grand jour, et en attendant que tu sois... Que ton règne apparaisse. Le règne de Dieu, il n'augmente pas en soi-même, il est pleinement roi. Mais c'est sa visibilité qui augmente. Sa visibilité qui augmente. Dans une famille, dans un immeuble, dans un quartier, c'est sa visibilité qui augmente. Et que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Alors je repose la question, faite par qui ? Bon, là, quand même, c'est par nous, hein. Mais qui crée en nous le vouloir et le faire? Donc, entre disciples du Seigneur, on va dire, quand tu fais sa volonté, oui, tu fais sa volonté. Mais c'est encore lui qui produit. Donc... Que ta volonté soit faite, ça peut être aussi un appel au secours du Seigneur. Alors, moi, dans mon cœur, sur mes lèvres, dans mes pensées, donc, que ton nom soit sanctifié, révèle-toi comme saint, que ton règne vienne, révèle-toi comme étant le roi, et que ta volonté soit faite, révèle-toi comme étant bon. Et on l'a chanté, hein? De bon cœur et puis comme il faut. Je veux dire, vraiment, tu es bon, tu es bon, tu es bon. Révèle, et parce que sa volonté est bonne. Que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Alors ici, évidemment que ça responsabilise l'Église, les Églises, énormément, parce que le Nouveau Testament enseigne clairement que le monde, en tant que monde, dans la mesure où il rejette Dieu, ne fera pas la volonté de Dieu. Et c'est pour ça qu'en soi, il ne s'améliore pas, et même à l'inverse. Donc, qui sur terre va faire la volonté de Dieu par l'action de Dieu et par son esprit ? Eh bien, son peuple. Voilà. table des matières d'une vie tout entière de prière, ton nom, ton règne, ta volonté. Premièrement, toi, montre-toi, manifeste-toi, révèle-toi, viens, voyez, premièrement. Et puis ensuite arrive notre, ou nous, notre, nous, donne-nous notre pain, pardonne-nous nos offenses, et puis délivre-nous du mal. Oui, donc toi, nous. Voilà, ça c'est la table des matières d'une vie de prière. Je ne veux pas dire qu'obligatoirement, quand je me mets en prière au début, je parle uniquement de sa sainteté, de son règne, de sa volonté, et seulement un quart d'heure après, je parle de mes besoins. Il n'y a pas de souci pour le Seigneur que ma première demande soit « Seigneur, tu vois, ça fait longtemps que je cherche un emploi. » Vous voyez, ce n'est pas chronologiquement, ce n'est pas obligé. Mais au niveau de l'importance des priorités du cœur et quand même des lèvres, de l'abondance du cœur, voilà, c'est lui. Voilà. Alors donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien. Donc je répète, je ne vais pas prendre de temps pour répéter qu'on travaille pour gagner son pain. Et Jésus dit, prie quand même que Dieu te le donne. Ben, pour être avec lui, et puis quand même pour ne pas t'imaginer que juste parce que tu as bossé, tu as du pain. Tout ce que tu as, c'est Dieu qui donne. Si tu as bossé avec ton cerveau, eh ben, qui t'a donné ton cerveau? Voilà, hein, donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien. Il y a l'idée aussi que c'est à chaque jour, on est en confiance. Voilà, c'est vraiment le Père, hein, c'est le Père. Pardonne-nous. Alors, littéralement ici, donc pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Littéralement, remets-nous nos dettes envers toi. Et après, comme nous avons remis, littéralement, comme nous avons remis. Alors ici, il faut se rappeler que Jésus enseigne cette prière à des disciples. La fin du chapitre 5 est claire, il parle aux disciples. Hein, vous avez entendu, voilà, moi je vous dis, aimez vos ennemis, priez pour eux, voilà, à des disciples, et remets-nous nos dettes. Et je l'ai dit hein, déjà, mais si, quand il se révèle comme le Saint, nos dettes, elles nous apparaissent, mais même une petite jalousie, une convoitise de 4 secondes, un demi-mensonge, un moment, ça nous apparaît, mais c'est grave, Seigneur, c'est pas normal, tu m'as fait grâce, tu m'aimes, tu me supportes, tu me remplis, en plus je prêche aux autres, et puis pourquoi là j'ai quasiment menti? Et puis des fois c'est plus que quasiment, hein. Donc j'ai une dette, on a des dettes envers lui. Alors Jésus a effacé nos dettes, mais on en refait. Hein. Et ouais. Alors, de toute façon, si tu minimises la gravité du péché, il faut que tu pries Dieu de se révéler comme le Saint. Il faut que tu lui demandes, sanctifie ton nom, Père. Parce que moi, j'y vois mal. Je ne trouve pas grave des trucs graves. Et puis inversement, des fois. Alors, remets-nous nos dettes. Je ne veux pas développer, mais vous connaissez la parabole du mauvais serviteur, là, un peu plus loin dans Matthieu, au chapitre 18, où Jésus il dit, il y a un maître qui demande des comptes au serviteur, et on lui en amène un qui lui devait 10 000 talents. Le talent, c'est 34 kilos d'or. Ou même si c'est d'argent, il a été calculé que ça pouvait équivaloir à 3 millions de journées de travail d'un bon ouvrier. Voilà, il lui devait ça. Voilà, donc, cessons de penser que le péché, c'est pas grave. sous prétexte qu'on est sauvé. Remets-nous nos dettes. Ce que Jésus veut dire par là, c'est que nous, on ne peut pas les effacer. On ne peut pas les effacer. Même une petite méchanceté, je ne peux pas l'effacer. Il faut que je vienne demander le pardon de Dieu pour qu'il me la remette. Voilà. Et puis la suite, et c'est là où on se rappelle qu'il parle à des disciples. Jésus ne dit pas à des non-croyants de prier « Dieu, pardonne-moi comme j'ai pardonné à ma belle-mère ». Il ne dit pas ça à des non-croyants, il dit à des disciples qui ont déjà été pardonnés, graciés. Et là, il dit « Voici comment vous devez prier ». Donc, quand vous priez, dans Luc, c'est « quand vous priez, dites deux points », et puis notre Père, voilà. Eh bien, dites deux points, pardonne-moi comme j'ai pardonné. Autrement dit, là, il me met face aux réalités, sois conséquent avec ton Père. Sois conséquent avec ton Père. Sois sérieux avec lui. Si tu lui demandes pardon, ne t'autorise pas à refuser le pardon à quelqu'un. Mais c'est valable pour mille autres domaines. Tu lui demandes de purifier ton cœur, et puis tu regardes même des trucs érotiques simplement, trop suggestifs, et parlons pas de pornographie, etc. Il y a des chrétiens qui font ça. Mais oui, c'est un esclavage. C'est un esclavage. Donc, c'est pas, vous voyez, le sérieux face au péché, c'est pour tout d'autre. C'est pas seulement le refus du pardon, c'est tout. Alors, évidemment que la grâce de Jésus nous couvre, sans quoi on est déjà cuit. Hein. Remets-nous nos dettes comme nous en avons remis. Comme nous avons remis à ceux qui ont des dettes envers nous. Alors ici, je veux bien voir la seconde. Voilà, c'est la traduction littérale. Ne nous induis pas en tentation. Alors, on est à combien de minutes là? Combien? 42. On va s'approcher du bout. Hein. Finalement, officiellement, ça a été enlevé, ce mot « induit » du Notre Père par le Vatican, il y a, je ne sais pas moi, je ne sais plus, 30 ou 40 ans, en disant « non, quand même, le Père, il ne tente personne, tout ça », et donc on met « ne nous laisse pas entrer en tentation ». Ce qui est écrit ailleurs, Jésus dit à Gethsémané, « veillez et priez ». Dans le jardin, là, il dit aux disciples, afin de ne pas entrer en tentation. Donc, le doigt est mis clairement sur la responsabilité du disciple de ne pas aller chercher les ennuis. Hein, selon où je vais, qu'est-ce que je fais, qu'est-ce que je regarde, qui j'écoute, évidemment, je vais être tenté. Je me connais à peu près. Voilà. Donc, ne pas entrer en tentation. Très bien. Mais Jésus a vraiment dit, et dans le texte parallèle de Luc 11, de dire « ne nous induis pas, ne nous conduis pas en tentation ». Et bien, comme on est des enfants, et que si on ne reçoit pas le royaume de Dieu comme un petit enfant, on n'y entre pas, comme on est des enfants, et bien, en tout cas moi j'accepte cette parole, et en fait elle me bénit profondément. Parce que s'il n'existait que n'entrez pas en tentation, ça me laisse moi seul face au malin. Et la question de la tentation, c'est le diable, c'est un problème entre le diable et moi, et ce qui est le cas. Mais là, quand Jésus dit « Priez votre Père qui conduit tout, qui maîtrise tout, qui même quand vous êtes tenté le permet, voyez, priez votre Père » et demandez-lui de conduire de manière que vous ne soyez pas tenté. Et là, ce n'est plus le diable et moi, c'est Dieu et moi, et puis le diable, bien sûr, parce que non seulement il existe, mais il est actif. Vous voyez ? ne nous induit pas. Autrement dit, face à la tentation, je me mets entre tes mains. Papa du ciel, je me mets entre tes mains face à la tentation. Et là, quand je dis ça, je le prie, moi. C'est pour moi que je fais ça. Mais délivre-nous du malin. Donc, donne-nous, matériellement, tout. Pardonne-nous, délivre-nous. Est-ce que nous prions suffisamment, délivre-nous du mal, du malin? Les deux traductions sont possibles. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire. Amen. Ce qui veut dire c'est vrai. Hein, le mot amen, c'est un mot proche du mot vérité en hébreu. Hein. Enfin, de la même famille, quoi. Et puis Jésus rajoute, et là, je suis désolé, mais je dois le lire, c'est marqué. il rajoute, si vous pardonnez aux hommes leurs fautes, donc pareil, hein, si vous leur remettez leurs dettes, votre Père céleste vous pardonnera aussi. Mais si vous ne pardonnez pas aux hommes, votre Père ne vous pardonnera pas non plus vos fautes. Donc là, dans le temps présent, les mois, les décennies où je refuse de pardonner à quelqu'un, pendant ce temps-là, il y a des choses que Dieu ne me pardonne pas. On va dire, mais il est venu, il nous a prêché ça, qu'il y a des choses que Dieu ne pardonne pas. Peut-être l'Église ne m'invitera plus.
C'est Jésus qui le dit.
Il est peu probable que Jésus parle ici, que du coup c'est la perdition éternelle pour vous. Parce que d'autres textes montrent là, cette incroyable patience de Dieu. Par contre, il y a des textes aussi qui montrent que pour avoir méprisé la scène, il y en a qui sont malades, il y en a qui sont morts. Donc il y a des conséquences au présent. Voilà. Et donc Jésus, après avoir dit les paroles de la prière, parce que là ce n'est plus... Et ce n'est plus des choses que nous on dit en prière. C'est Jésus qui dit, si vous pardonnez aux hommes, voilà. Là, c'est il enseigne. Hein, soyez conséquents avec le Papa du ciel. Soyez conséquents. Voilà, donc, pour finir... table des matières d'une vie de prière, et tous les sujets plus précis de tout ce que j'ai écrit dans mon livre il y a presque 20 ans, là, les sujets de prière des Nouveaux Testaments, hein, que la grâce soit multipliée, la paix, que Dieu donne la foi, la connaissance de sa volonté, etc. Et bien c'est inclus, tout ça c'est inclus dans révèle-toi comme saint, révèle-toi comme roi, révèle-toi comme bon. Amen. Enfin, j'espère, amen, j'espère que c'est vrai ce que j'ai dit. Qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite comme au ciel, aussi sur la terre. Donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien. Remets-nous nos dettes, comme nous avons remis aussi à ceux qui ont des dettes envers nous. Ne nous conduis pas en tentation, mais délivre-nous du malin, car c'est à toi qu'appartiennent, au siècle des siècles, le règne, la puissance et la gloire. Amen.